Monsieur, malgré le petit nombre que nous avons été à vous écouter, est-ce que ça peut commencer à changer quelque chose pour la Terre? Merci. Ça dépend à vous. Jésus a commencé avec 12, une douzaine. And the 12 he began with were not very good.
You surprised me.
I know. Let's keep you awake.
Yes, keep me awake. Yes. Les 12 qu'avait Jésus au départ, ils n'étaient pas très bons.
So I think if each of us responds to our own call, our own vocation, we can change the world, yes.
Si chacun d'entre nous répond fidèlement à notre vocation, à l'appel qu'il nous a adressé, alors nous pouvons effectivement changer le monde.
We just need the courage to trust ourselves and the Spirit.
Nous avons tout simplement besoin du courage nécessaire pour nous faire confiance à nous-mêmes et à l'Esprit.
And that courage, I think, comes in large part from from being in community.
Et je crois que ce courage, on l'obtient en grande partie en étant en communauté.
But if there was one single thing that each of us could do that would really contribute to a positive change, I think it would be to share the teaching by starting a small group.
Je crois que s'il y a une chose que chacun pourrait faire, vraiment, qui contribuerait de manière très importante, fondamentale, ce serait de monter un petit groupe de méditation.
And that is a gift of self, of course, that we make.
Et ça représente un don de soi.
But it rewards us a hundredfold.
Mais ça nous donne énormément de bienfaits en retour.
So,
100 fois.
So you say it's a small number, but there would be 140 groups more in France.
La personne qui a posé la question a dit qu'on était un petit nombre, mais
parce qu'il y a un haut-parleur quelque part.
Si chaque personne devait monter un groupe, ça ferait encore 140 groupes.
Il y en a en France.
Ok.
Ça va, vous m'entendez?
Oui.
Parce que je crois qu'on risque d'avoir un... Voilà, donc moi je propose que je me passe le micro, si tout le monde m'entend. Je vais un petit peu juste pousser la sono un petit coup. Juste en complément de ce que vient de dire Lawrence Freeman, je crois qu'on a toujours ce problème de la question de la quantité, de la masse et du nombre, mais il ne faut pas non plus oublier que dans l'Évangile, ce qui est demandé aux chrétiens, c'est d'être le levain dans la pâte et pas toute la pâte. Et alors le problème, c'est justement précisément d'être un bon levain. Hein. Peut-être que c'est bien de commencer par se mettre là où peut-être quand même la pâte peut monter un petit peu plus vite pour commencer.
And also, Jesus said, feed my sheep, not count them.
Jésus a dit aussi, faut nourrir mes brebis, pas les compter.
Ensuite, moi, je vais prendre trois questions parce qu'elles sont reliées. La première, pouvez-vous préciser ce que vous nommez sacré? Pouvez-vous développer votre réflexion, la nature n'est pas d'essence divine? Et puis ensuite, énergie divine incrée, lien avec le monde angélique. Donc ça a un petit peu à voir avec la conception de la nature. Alors, sur la question du sacré, alors vous savez, on pourrait faire toute une conférence sur la notion du sacré et sur toute son histoire. Moi, j'aime bien cette vision qui a été développée par un auteur que j'ai déjà mentionné et que je crois est très proche aussi de votre mouvement qui est Raymond Panikkar. Et Raymond Panikkar, à un moment donné, il parle de ce qu'il appelle la trinité radicale. Alors, c'est pas la trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il parle d'une trinité radicale comme constituant, selon lui, en fait le fondement même de la réalité. Et cette réalité, elle est composée de trois dimensions indissociables qui s'interpénètrent et qui sont justement la dimension cosmique, la dimension humaine et la dimension divine. Alors, par rapport, quand je parle de sacré, faut un petit peu l'entendre comme un terme générique qui fait référence à cette troisième dimension, qui est la dimension divine, justement une dimension qui n'est pas prise souvent en compte dans la perception, dans l'approche de la réalité, en particulier de la réalité cosmique. Donc on pourrait dire, au fond, ce que je désigne par sacré, c'est cette présence du divin, de cette dimension divine, qui est une dimension de mystère, autre que matérielle, au sein même, comme constituant même, en fait, de la réalité de la création, et qui, de facto, lui donne un caractère qui appelle à une attitude de respect et de responsabilité. Et c'est vrai que là-dessus, je ne peux que souligner ce qu'a répété plusieurs fois le Père Lawrence sur le fait qu'effectivement la tradition chrétienne, notamment par rapport à la tradition, une certaine tradition juive, marque une rupture dans le sens où il efface les frontières traditionnelles entre le sacré dans des espaces délimités et le profane. Et là, il faut simplement penser à ce moment des évangiles, quand le Christ est crucifié, quand le Christ meurt, il y a à ce moment-là un phénomène cosmique, et il y a ce verset qui dit « Et le voile du temple se déchira ». Et à partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de frontière entre des espaces qui seraient sacrés et des espaces qui seraient profanes. Est sacré, devient sacré, ce que, par la manière dont l'être humain va l'habiter et le regarder, et est profane, en réalité, ce qui est profané. Point. Donc ça a vraiment à voir avec notre regard et notre attitude. Sur la question de la nature qui n'est pas d'essence divine, alors je reprécise ce que j'ai essayé de dire. C'est vrai que dire, par exemple, que cet arbre que l'on voit est d'essence divine, ça voudrait dire qu'il est dans sa nature même divin. Mais vous savez, en tout cas la tradition à laquelle on se réfère a fait une distinction très claire entre ce qui est du domaine du divin, donc de l'incréé, et qui est en fait réservé uniquement à Dieu, au Dieu créateur, et précisément ce qui est du domaine du créé. Hein. Et le domaine du créé n'est pas en fait d'essence divine, parce que là on serait effectivement dans une identification entre la création et le divin, ce qui nous amènerait vers le panthéisme. D'où cette idée de pananthéisme, de dire certes, ce n'est pas d'essence divine, mais c'est habité par le divin, notamment par les énergies divines, qui effectivement sont source de la vie, source en fait de en fait aussi de ce processus de transfiguration qui est à l'œuvre. Et il y a une célèbre parole des pères de l'Église qui a été lancée par Athanase d'Alexandrie au IVe siècle, qui dit « Dieu s'est fait homme, donc à travers Jésus-Christ, pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Alors en réalité, le premier Dieu s'est fait homme, c'est un D majuscule. Pour que l'homme puisse devenir Dieu, c'est un D minuscule, puisque nous ne devenons pas Dieu par nature, mais nous devenons Dieu par la grâce, c'est-à-dire par l'incorporation, la manifestation des énergies incréées, qui effectivement, de cette manière, nous devenons Dieu, mais par la grâce et pas par le fait que nous sommes d'essence divine. Troisième question sur le rapport entre les énergies incréées et le monde angélique. Donc là, je reviens sur cette distinction entre ce qui est du domaine de l'incréé, du divin, et le domaine du créé. Dans le domaine du créé, il y a toute une série de dimensions, toute une série d'aspects. Et notamment, il y a des réalités visibles, qui sont matériellement visibles, en particulier le fait que un certain nombre de créatures ont des corps. Nous sommes des créatures visibles, nous avons un corps, les animaux ont un corps. Et il y a ce que l'on appelle des êtres incorporels. C'est-à-dire, ce sont des êtres créés, mais qui sont invisibles parce qu'ils n'ont pas une enveloppe corporelle qui les rend visibles. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et vous savez que même dans la matière, 95% de la matière, c'est de l'invisible. Eh bien, et ce sont des corps qui ont une forte dimension énergétique. Et ça, c'est ce que l'on a appelé le monde angélique. Et dans ce monde angélique, qui est un monde énergétique, incorporel, eh bien, il y a des énergies et des forces et des êtres qui sont des êtres, je dirais, bienfaisants, qui agissent précisément dans le sens de la sanctification de la transfiguration du monde, mais il y a aussi des forces négatives. Et c'est pour ça que quand on commence à un petit peu... Parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité, et peut-être même que la méditation ou la vie spirituelle peuvent tout à coup nous mettre en contact avec ce monde invisible, il faut beaucoup de discernement et de prudence. En tout cas, ça, c'est l'enseignement des pères spirituels.
Merci. Il y a quelques questions sur la méditation. D'abord, méditation chrétienne. Je préfère parler de chrétien qui médite. Pensez-vous que l'adjectif chrétien apporte quelque chose à l'acte de méditer? Well, we speak of French cuisine.
Très bien, nous parlons de la cuisine française.
We even today speak of English cuisine.
Aujourd'hui, nous arrivons même à parler de la cuisine anglaise.
We speak of Buddhist meditation.
Nous parlons de la méditation bouddhiste.
Meditation is universal.
La méditation est une chose universelle.
But it has its own identity within different traditions.
Mais chaque forme de méditation a son identité précise entre parmi toutes les traditions.
So I wouldn't argue too much with you about the terminology.
Donc je me battrai pas beaucoup avec vous en ce qui concerne la terminologie.
But I've met many people who have been looking for a Christian approach, a Christian tradition of meditation, who have typed in méditation chrétienne or Christian meditation into the Google search engine.
Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui cherchaient une forme de méditation chrétienne, qui ont googlé, si on peut dire, méditation chrétienne.
So, it is a label in some ways, I agree.
Donc c'est une étiquette d'une certaine façon, je suis d'accord.
But I think it's true both to the universal, or it is true both to the global and the particular aspects of meditation.
Mais je crois que c'est vrai dans les aspects globaux aussi bien que particuliers de la méditation.
All our Christian meditation groups are open to people of all faiths or no faith.
Tous nos groupes de méditation chrétienne sont ouverts à des personnes de foi différentes ou des personnes qui n'ont pas de foi particulière.
So it is descriptive, not exclusive.
Donc, c'est un terme qui décrit, mais qui n'est pas exclusif.
Le mot Maranatha ne me convient pas, car spontanément, c'est un autre nom que depuis des années est présent. Dans la lettre de WCCM, comme des présentations, il n'est jamais fait mention que l'on puisse laisser venir à un autre nom. Pourquoi? Et pourquoi pas? Well, when we introduce meditation, we say that it is important the choice of the word is important.
Eh bien, quand nous présentons la méditation, nous disons que le choix du mot est important.
Because it should be a sacred word in your own tradition.
Parce qu'il doit s'agir d'un mot sacré dans votre tradition.
And because you stay with this word indefinitely.
Et vous restez avec ce mot indéfiniment.
From day to day, in each meditation.
Jour par jour, dans chaque méditation.
In this way, it takes root in the heart and opens you to the continuous prayer of the Spirit.
De cette manière, le mot s'enracine dans le cœur et nous ouvre à la prière de l'Esprit.
So, when you're waiting in the supermarket queue or you're waiting for the train, quite naturally, your word will come back into consciousness.
Donc, quand vous êtes dans la queue au supermarché, vous attendez le train, très naturellement, votre mot vous reviendra à l'esprit.
And it reconnects you immediately to the joy and peace of the Spirit in your heart.
Et ça vous connecte immédiatement avec la joie et la paix de l'esprit dans votre cœur.
This is a wonderful gift that changes your life.
C'est un don merveilleux qui vous change la vie.
And I think they have not discovered a pill that will do this yet.
Et je pense que personne n'a découvert encore une pilule qui peut le faire de la même manière.
So, then we would say, you could choose the word Jesus, or the word Abba, or the word we would recommend is Maranatha.
On pourrait choisir le mot Jésus ou Abba, mais le mot que nous recommandons est le mot Maranatha.
And we recommend Maranatha because it is the earliest Christian prayer.
Nous recommandons le mot Maranatha parce que c'est la prière chrétienne la plus ancienne.
Because it is not in our own language.
Ce n'est pas dans notre propre langue.
Unless you happen to be a Palestinian.
À moins que vous ne soyez palestinien.
And because the sound of the word and the length of the word are very helpful.
Et parce que le son et la longueur du mot, les deux éléments sont très adaptés.
The fact that it is not in our own language is important.
Le fait que ce ne soit pas dans notre propre langue est une chose importante.
Because it doesn't stimulate our thought or imagination.
Parce que le mot ne stimule pas ni la pensée ni l'imagination.
But this is in a sense of secondary importance.
Mais ça, d'une certaine manière, c'est d'une importance secondaire.
The important thing is it should be a sacred word and you stay with the word.
La chose importante, c'est que ça doit être un mot sacré et nous devons garder toujours le même mot.
If you have been saying another word for a long time, as you seem to have been doing,
si vous utilisez un autre mot depuis longtemps, comme ça semble être le cas de la personne qui a posé cette question,
And you feel that this word has been rooted in your heart.
Et vous sentez que ce mot est enraciné dans votre cœur.
Then generally, I would suggest stay with that word.
En règle générale, je vous conseillerais de rester avec ce mot.
But if you have some questions about it, you can discuss it with someone.
Mais si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez en discuter avec quelqu'un.
I was telling Michelle Friday. I met a woman recently who was trying to introduce meditation to her two grandchildren.
J'ai raconté vendredi à Michel, j'ai rencontré récemment une femme qui essayait de présenter la méditation à ses deux petits-enfants.
But her daughter, the mother of the children, was very anti-religious.
Mais sa fille, donc la maman des deux enfants, était contre la religion.
So she gave permission to introduce them to meditation, but no religion.
Donc, elle a donné à sa mère la permission de présenter la méditation à ses deux enfants, mais sans religion.
So she was very careful, and so she said to the children, "You choose your own word."
Donc, elle faisait vraiment très 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 attention. Elle a dit aux enfants, choisissez vous-même votre mot.
And the boy chose shepherd's pie.
Et le petit garçon a choisi haché parmentier.
And the little girl, and this shows that girls are more intelligent than boys.
Et la petite fille, ce qui montre d'ailleurs que les filles sont beaucoup plus intelligentes que les garçons.
The little girl chose dictionary.
A choisi le mot dictionnaire.
Because she said dictionaries contain all words.
Parce qu'elle a dit un dictionnaire contient tous les mots.
But that's why it's advisable to take your word from someone.
Donc c'est pour cette raison que il est plus sage de choisir votre mot, enfin de prendre le mot qui vous est conseillé.
Bon, je vois qu'on va quand même assez vite, donc c'est bien, je crois qu'on va arriver au bout. Il y a une autre question, alors là je vais un tout petit peu plus développer. Éco-spiritualité et sobriété heureuse, concept de Pierre Rabhi, y a-t-il un lien, lequel ? Alors, j'avais envie de vous en parler ces deux jours, mais bon voilà, dans le temps qui m'était donné, j'ai pas réussi. Donc je pense qu'effectivement, non seulement il y a un lien, mais que ce lien est très important. Alors, par rapport à la notion de sobriété, pour faire ces liens au plan spirituel, une première chose qui a à voir avec, avec la conscience. J'ai mentionné ce recueil de textes sur la prière de Jésus, la prière du cœur, qui s'appelle la Philokalie, qui veut dire amour de la beauté, du grec, Philokalia, et donc qui réunit un ensemble de textes sur la prière du 4e au 14e siècle. Et en réalité, ce livre s'appelle la Philokalie des pères neptiques. Enfin, les pères neptiques et pas des pères népotiques. Même si ça existe aussi, hein, les pères neptiques. Donc les pères neptiques. Alors cette notion de nepsis, elle apparaît à de nombreuses reprises dans la Philokalie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a elle prend une multiplicité de sens. C'est pour ça que c'est difficile de le traduire en français parce qu'on est tout de suite dans quelque chose de très réducteur. Et elle prend une multitude de sens qui ont à voir aussi bien avec des attitudes spirituelles qu'avec une pratique ascétique et avec un mode de vie. Alors en fait, il y a quatre sens de ce mot nepsis qui ressortent. Le premier, c'est le sens d'éveil. D'éveil, justement, qui est opposé à l'inconscience, la somnolence. Le deuxième sens, c'est la clarté intérieure et la vision claire, par opposition à l'égarement, à l'illusion, à la confusion de l'esprit. Le troisième sens, c'est la vigilance, la garde du cœur. Là, on est vraiment au niveau de la 16, par rapport à justement l'inattention, la dispersion de l'esprit, l'oubli. Et le quatrième sens, c'est la sobriété, c'est-à-dire la mesure, hein, la mesure, la modération, précisément par opposition à l'excès et à la démesure. Et là, on est véritablement dans l'aspect mode de vie. Donc on voit bien, éveil, conscience, qui conduit à une attitude qui est en fait la vigilance, la garde du cœur, et qui débouche sur un mode de vie qui est la sobriété et la modération. Ça, c'est le premier lien entre la sobriété et l'éco-spiritualité. Ensuite, évidemment, dans cette dernière dimension de mode de vie, je pense que par rapport à ce système CPC, qui est fondé sur la démesure, qui est fondé sur une consommation outrancière, la sobriété, qui plus est la sobriété joyeuse, est absolument une clé. Je crois qu'il faut, on peut aussi parler de forme de frugalité, hein, et je crois qu'il faut retrouver ça, et surtout, quand on parle de sobriété, tout de suite, beaucoup de personnes associent sobriété à l'abstinence, à la privation, au manque de quelque chose. Alors qu'en réalité, et c'est l'idée de sobriété joyeuse, c'est bien de redécouvrir une qualité de vie, fondée sur une forme de simplicité qui, justement, donne plus d'importance aux liens qu'aux biens. Hein, c'est vraiment passer des biens à, justement, une richesse de liens. Et ce n'est pas du tout non plus, alors au niveau économique, une forme de régression. Certains disent « Ah oui, mais la sobriété, ça va être comme la décroissance, le retour à la bougie et ce genre de choses. » Ce qui est évidemment d'une totale mauvaise foi, parce que quand même, dans nos sociétés, nous sommes dans une telle abondance matérielle que nous pouvons très très bien, en fait, aller vers quelque chose de beaucoup plus sobre sans absolument rien perdre de notre qualité de vie. Et il y a une notion très intéressante qui a été développée par les économistes qui s'appelle le bonheur paradoxal. Peut-être vous connaissez cette notion, en tout cas ça montre que à partir d'un certain degré de prospérité matérielle et de bien-être matériel, lié évidemment à des formes de consommation, eh bien le sentiment d'épanouissement personnel et de bien-être personnel et intérieur se renverse et même commence à générer du mal-être, hein, et voir après toute une série précisément de pathologies qui conduisent à utiliser des tranquillisants, etc., des antidépresseurs et compagnie. Alors cette décroissance, juste pour donner peut-être un peu de contenu à cette sobriété, moi j'y vois surtout trois éléments, un petit peu justement pour faire le lien avec une dimension spirituelle, trois démarches que j'ai déjà évoquées. Il y a une démarche de discernement, et qui a à voir avec le fait notamment de discerner entre précisément ce que sont nos vrais besoins, qui sont finis, qui sont satiables, et toutes ces envies dont j'ai parlé, stimulées par le système, qui elles sont absolument infinies. La deuxième dimension, c'est une dimension d'autolimitation volontaire. C'est une manière simplement de répondre au fait qu'aujourd'hui, on sait que nous sommes dans un monde fini, que la biosphère a des limites et que simplement le mode de vie occidental n'est pas durable, puisque actuellement, si tout le monde voulait vivre comme les Américains, il faudrait 5 à 6 planètes pour pouvoir vivre, que tous les habitants de la planète vivent de cette manière. Donc c'est non seulement pas durable, mais ce n'est pas non plus équitable, puisque de facto, il y a toute une série de populations qui n'ont même pas, en fait, qui consomment moins qu'une planète et qui, en fait, n'ont pas encore un mode de vie décent. Et puis, il faut voir que cette notion d'autolimitation, elle est au cœur même de la spiritualité biblique et évangélique. Quand on parle du récit de la création, la tradition juive parle du tzimtzum, hein, c'est-à-dire on dit que Dieu crée le monde en se retirant, et en se retirant pour laisser un espace précisément qui serait un espace de liberté et pour permettre à sa création et en particulier à l'être humain de se développer. Donc il y a cette dimension d'un Dieu qui se met en retrait, qui autolimite son pouvoir. Et puis c'est tout le thème dans le Nouveau Testament de la kénose, hein, avec le célèbre texte de l'apôtre Paul aux Philippiens, quand il montre comment le Christ, en fait, la kénose du Christ, donc qui en fait d'une certaine manière se vide d'une certaine manière volontairement de sa divinité et de tous les pouvoirs liés à sa divinité pour assumer en plénitude toute l'humanité jusque dans ses fragilités et ses faiblesses. Donc se vider, il y a aussi là, et je pense que dans la sobriété, il y a intérieurement ce mouvement aussi de kénose et qui a à voir avec l'autolimitation. Et vous savez, Gandhi disait que l'autolimitation, c'est la base, le fondement même de la civilisation. Et Solzhenitsyn, que j'ai mentionné, disait « il n'y a pas de vraie liberté sans autolimitation ». Et le troisième point, c'est ce travail de libération dont j'ai parlé, justement pour en fait nous libérer de tous les conditionnements qui sont imposés soit par l'éducation, soit par le système de pensée, et surtout par le système du marché, et ce que Edgar Morin appelle très joliment nous dépolluer de toutes les intoxications de civilisation. Donc en résumé, je pense que la sobriété, c'est d'une certaine manière, pour reprendre cette notion d'équité, c'est apprendre à vivre simplement pour que les autres parties de la planète et les autres parties de la population puissent simplement vivre.
Merci. Deux questions liées ici. Hier, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez un renouvellement de l'Église
d'intenter
un nouveau mythe identique sur toute la planète. Réinventer l'écriture. Non.
Ben non.
En effet, in fact, it is to to help us to reconnect to the scriptures.
En fait, c'est pour nous aider à nous reconnecter avec les écritures.
I think we are really in danger of becoming deracinated.
Je pense que nous sommes vraiment en danger de devenir déracinés.
In most traditions, we have an understanding that there are three. Everything happens in three. There are three kinds of texts, sacred texts.
La plupart des traditions, il y a toujours trois types de textes sacrés.
We have the primary texts.
Il y a les textes primaires, les premiers textes.
It took Christians several hundred years to define the primary texts of the New Testament.
Il a fallu aux chrétiens à peu près 300 ans pour définir quels étaient les premiers textes du Nouveau Testament.
Then there are the secondary texts.
Il y a des textes qui viennent en deuxième place.
Which could be, for example, great commentaries on the primary texts.
Qui pourraient être des commentaires, des grands commentaires sur des textes de base.
For us, especially the fathers of the church.
Pour nous, ce seraient les textes des pères de l'Église.
And it takes, again, a lot of time before we have the perspective to see whether what we're reading today is going to be a secondary text of this caliber.
Et encore une fois, il nous faut beaucoup de temps pour, pour savoir si les textes que nous lisons aujourd'hui deviendront ou non des textes de ce niveau.
And the third level are the books that we read that become bestsellers for a year and then disappear.
Et le troisième niveau sont les livres que nous lisons qui deviennent des best-sellers pendant une année et qui après disparaissent.
So, I think what I was saying is that we are living in a qualitatively new global consciousness.
Je pense que, comme je disais tout à l'heure, que nous vivons dans une conscience globale.
And a new global consciousness.
Nouvelle.
Simone Weil says that we need today a new sanctity, a nouvelle sainteté.
C'est ce qu'a dit Simone Weil. Nous avons besoin aujourd'hui d'une sainteté nouvelle.
Which is true to the global consciousness we are aware of today.
Qui serait fidèle à la conscience globale dont nous avons connaissance aujourd'hui.
So I think this new consciousness, this new kind of holiness must be universal.
Donc je pense que cette nouvelle forme de sainteté, cette nouvelle conscience doit être universelle.
And the story of creation or the story of the universe, for example, is a universal myth.
Et l'histoire de la création de l'univers, c'est un mythe universel.
Discovered by science and creative scientists.
Découvert par la science et des scientifiques créatifs.
This doesn't replace the primary texts or even the secondary texts.
Ça ne remplace pas les premiers écrits ni les textes qui sont venus après.
So this relates to the other question, à propos de la conscience mythique et des mythes fondateurs, pourquoi la nécessité de nouveaux récits à transmettre aux générations futures, ce existant ne peuvent plus servir. We need to learn how to read these primary texts in the light of this new global consciousness.
Nous avons besoin d'apprendre comment lire ces premiers textes à la lumière de la conscience que nous avons aujourd'hui.
And generally, the way most people hear these texts within the church is very inadequate.
Et en général, la manière dont la plupart des gens entendent ces textes dans l'église, c'est assez inefficace.
We go to church on a Sunday, we listen to the reading from the book of Judges or Genesis.
Nous allons à l'église le dimanche, nous écoutons la lecture du livre des Juges ou de la Genèse.
And there is no commentary on it.
Et il n'y a pas de commentaire qui est offert là-dessus.
And the children, we have not received introduction to the context of these texts in school or in the church.
Et nous n'avons pas reçu l'enseignement sur le contexte dans lequel ces textes ont été écrits, que ce soit à l'école ou dans l'église.
So we need some instruction, some education.
Donc nous avons besoin d'être instruits, d'être éduqués.
But also we need the opportunity to break the word together in small groups.
Mais nous avons aussi besoin de rompre ce pain et cette parole ensemble. Dans des petits groupes.
And then finally, this is kind of related to this in a way. Cette communauté est chrétienne. You could read that.
Cette communauté chrétienne connaît-il de la communion? Il n'a pas été fait référence à l'Eucharistie pour les différentes églises représentées, catholiques, orthodoxes, protestantes.
Okay. And this, c'est lié à cette question. Quelle place a la méditation dans la vie chrétienne? Doit-elle s'intégrer dans un ensemble vaste, vie sacramentelle, partage d'évangile, célébration de la parole? Meditation has its full meaning and force within a broad spiritual context.
La méditation prend tout son sens dans un contexte spirituel large.
Does it replace other forms of prayer?
Est-ce que la méditation remplace d'autres formes de prière?
Not in my experience.
Pas dans mon expérience.
It enriches the other forms of prayer.
Ça enrichit les autres formes de prière.
But it may also simplify these forms of prayer.
Mais ça peut aussi bien simplifier ces formes de prière.
And it will liberate them.
Et la méditation les libérera.
From being seen as obligations or legalistic practices into being enriching and life-giving.
D'être vu comme des obligations et un peu de légalisme, ça devient des choses qui donnent la vie.
Our community is an ecumenical community.
Notre communauté est une communauté écuménique.
We have to respect the disciplines of our different churches.
Nous devons respecter les disciplines de nos différentes églises.
Sometimes we may not agree with those rules.
Parfois, il se pourrait que nous ne soyons pas vraiment d'accord avec ces règles.
But we have to be very careful about breaking rules.
Mais il faut faire attention en ce qui concerne le fait d'enfreindre les règles.
Because for a short-term advantage, we may create greater divisions.
Parce que pour récolter un avantage à court terme, nous pourrions créer des divisions plus importantes.
So I think the contemplative experience gives us a new understanding of what prayer means.
Je pense que l'expérience contemplative nous donne une compréhension nouvelle de ce que ça veut dire vraiment la prière.
It is more simple and deeper.
C'est plus simple et plus profond.
And we see that the essential prayer of the Christian is to enter into the prayer of Jesus.
Et nous voyons que la prière essentielle du chrétien, c'est d'entrer dans la prière de Jésus.
And this is what we experience in the silence when we meditate together.
Et c'est exactement cela que nous expérimentons quand nous entrons dans le silence ensemble.
And then we look at the differences of our different traditions in a new way.
À partir de là, nous regardons les différences entre nos différentes traditions d'une manière nouvelle.
We can come to see that maybe these differences are not divisions, but they are different perspectives.
Nous pouvons voir que ces différences ne sont pas vraiment des divisions, mais des perspectives différentes.
So I think this is the experience which will give us the Christian unity of the future.
Je pense que la méditation est l'expérience qui nous donnera l'unité au niveau chrétien à l'avenir.
The bureaucracy of our different churches will not lead us to this unity.
La bureaucratie de nos différentes églises ne nous amènera pas à l'unité.
But the Spirit will.
Mais l'Esprit le fera.
And then the bureaucracy will recognize it.
Et après quoi, la bureaucratie va le reconnaître.
So this work for Christian unity is our work, really.
Donc ce travail pour l'unité chrétienne, c'est notre travail.
Okay. Yes. En complément de ce que vient de dire le Père Laurent, je me suis pendant longtemps engagé et battu dans l'Église qui est la mienne pour essayer de changer des choses qui avaient à voir avec les structures, avec les modes de fonctionnement, etc. Et à un moment donné, j'ai décidé de mettre mon énergie ailleurs, simplement aussi pour laisser mettre en œuvre cette parole du Christ qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ». Justement, puisqu'on est par rapport à la tradition chrétienne, j'ai deux questions en lien avec ça. La première, la civilisation occidentale a des racines chrétiennes fortes et le revendique. Or, cette même civilisation occidentale a créé et imposé la société CPC qui contredit bien des valeurs évangéliques. Les chrétiens seraient-ils schizophrènes ? C'est une très, très bonne question. Complexe. Hein. Alors, deux, trois éléments de réponse. Alors c'est vrai que peut-être que le nom de Lynn White vous dit quelque chose. Lynn White est un historien américain qui a publié en 1967 un texte qui a eu beaucoup de retentissement dans la revue Science et qui en fait était une accusation très très forte et très argumentée de la responsabilité, voire même de la culpabilité de la tradition judéo-chrétienne par rapport à la crise écologique. Au fond, son message, c'était de dire, en se fondant notamment sur ce fameux verset de la Genèse où Dieu donne à l'homme le droit ou le devoir de dominer la terre, etc., etc., eh bien, il disait, voilà, en fait, la tradition judéo-chrétienne est une des causes majeures de la crise écologique. Je pense que c'est un peu cette question qui est là derrière. Alors, si vous voulez, par rapport à ça, je pense qu'il faut avoir une approche différenciée. Et il faut avoir beaucoup de nuances dans tout cela. Alors d'abord, je pense, et c'est vrai que les églises, très souvent, par rapport à la critique de Lynn White, ont réfuté cette critique, ont même accusé Lynn White de ne pas vraiment connaître la tradition chrétienne, de dire n'importe quoi, etc., d'exagérer. Et puis on dit, mais non, pas du tout. Donc je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une certaine responsabilité de la tradition chrétienne, d'une certaine tradition chrétienne, à une certaine époque, en particulier en Occident, par rapport à ce paradigme qui a amené à la crise écologique. Et je crois qu'on peut mentionner toute une série de points où une certaine tradition de l'Église a joué un rôle sur la question, par exemple, justement, de l'expulsion du divin dans la transcendance, parce qu'à un moment donné, il y a eu un accent qui a été mis très très fort sur cette, au fond, quasi, non seulement distinction, mais séparation entre l'incréé et le créé, entre le Dieu créateur et sa création. Il y a une approche très anthropocentrique dans toute une théologie. Il y a une méfiance par rapport au corps. Hein, et le corps, c'est vraiment l'interface première, en fait, de l'être humain avec le cosmique, avec la nature. On a aussi eu, j'ai parlé hier de l'esprit patriarcal, l'Église a aussi fortement contribué. Elle a aussi été active dans la persécution des sorcières. Et puis, il y a aussi eu toute une conception de l'eschatologie mal comprise, donc toute la théologie des fins dernières, qui ont amené finalement à se dire, mais bon, la figure de ce monde passera, peu importe, le salut est dans un autre monde et on n'a pas trop à se préoccuper, finalement, à trop se faire de soucis sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs un discours qui est encore tenu par certains mouvements fondamentalistes, créationnistes dans le monde anglo-saxon. Donc, le premier point, c'est de reconnaître qu'il y a une responsabilité. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas faire une causalité directe entre la tradition judéo-chrétienne et sa théologie et la crise écologique. J'aurais plutôt envie de dire que c'est une responsabilité, donc une causalité indirecte, dans le sens où, effectivement, le christianisme est un facteur d'identité culturelle de l'Occident et par un certain nombre de ses composantes a contribué à l'émergence de ce paradigme. Mais en même temps, si vous voulez, quand je dis causalité indirecte, c'est que ce système CPC dont on parle, qui est en fait une espèce de l'affairisme économique, il n'est pas le fruit de la tradition judéo-chrétienne, et je dirais même qu'il y a dans la Bible et dans la tradition judéo-chrétienne tous les éléments qui contredisent ce système CPC. Ce système CPC, il est vraiment lié à cette modernité occidentale, et cette modernité occidentale, elle est un phénomène de sécularisation. Elle est en fait complètement liée à un processus de déchristianisation du monde, et même d'éclatement en réalité du monde chrétien, qui a perdu de plus en plus d'influence par rapport, en réalité, au formatage de la société dans laquelle nous sommes, même si l'on pourrait avoir de grands débats sur l'implication ou le rôle d'une certaine théologie protestante sur l'éthique protestante, le capitalisme, etc. Donc, il y aurait des grands débats à mener, mais simplement pour dire, voilà, il faut différencier les choses et plutôt parler de causalité indirecte. Et quand on parle de tradition chrétienne, le père Lawrence a parlé des différents types de textes. Il faut toujours, et surtout quand on porte des responsabilités, voir qu'il y a les textes. Il y a ensuite l'interprétation qu'on en a fait. Et puis ensuite, il y a ce que l'Église a fait des textes et de l'interprétation. Et je crois qu'il faut aussi différencier les choses parce que ça a pu varier fortement d'une époque à d'une autre. Hein. Et parfois, on voit bien que ce que fait l'Église des textes n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le sens réel et profond des textes. Et la deuxième question... Désirer réenchanter le monde, n'est-ce pas un retour à l'archaïque? Le christianisme n'est-il pas une spiritualité tournée vers un monde qui vient? plutôt qu'un mouvement de retour. Alors j'espère que ce que j'ai dit n'a pas été perçu, parce que alors j'aurais complètement échoué, comme un appel à revenir en arrière et à restaurer je ne sais pas quoi. Non, comme je l'ai dit, alors c'est vrai que c'est une spiritualité tournée vers un monde qui vient. Ça, c'est tout à fait juste. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de l'eschatologie, des fins dernières, il y a dans la tradition chrétienne, profondément, cette tension vers les fins dernières, c'est-à-dire vers, en fait, ce que j'ai appelé la transfiguration du monde, hein. Nous sommes tendus, nous aspirons vers cette transfiguration, en sachant que cette eschatologie, on parle dans la tradition chrétienne, c'est très fort dans l'orthodoxie, d'eschatologie déjà réalisée. Hein, ça, c'est très important. L'eschatologie n'est pas simplement quelque chose qui va venir, et puis voilà, on est dans une vallée de larmes, et puis finalement, après, quand on sera dans l'autre monde, voilà, on sera au paradis, ou peut-être en enfer, je ne sais pas. L'eschatologie, c'est à la fois du pas encore et du déjà là. Je crois que c'est très important de voir qu'en réalité, cette transfiguration, elle est déjà en cours. Et une réunion comme celle que nous venons d'avoir pendant 3 jours, c'est une manifestation de ce déjà là. Qui n'est pas encore en plénitude, bien évidemment. La plénitude, ça viendra quand Dieu sera tout en tout. Hein. Mais c'est déjà là. C'est déjà une eschatologie qui est en route et c'est déjà une contribution à cette transfiguration. Et ce que je voulais dire simplement, c'était que, eh bien, quand on parlait de réenchantement du monde, c'était précisément de dire, mais il faut retrouver justement cette dimension divine, cette dimension sacrée, cette visée de transfiguration qui concerne aussi le cosmos. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le mot réenchantement, pas du tout pour revenir justement à un culte de la nature ou à une religion de la nature, mais plutôt pour réintégrer cette dimension et pour justement changer notre regard par rapport à la nature. Voilà.
Merci. Vous avez insisté sur l'attention nécessaire pendant la pratique de la méditation. Cela demande un effort personnel. Quel doit être
quelque chose de la volonté.
Ah, ok.
La part de la volonté.
Ok. So that's a good question. Bonne question. I would make a distinction between concentration and attention.
Je pense que je ferai une distinction entre la concentration et l'attention.
When we have to learn something for an exam, we sit up all night concentrating on the information we have to memorize.
Quand nous devons passer un examen, nous pouvons passer toute la nuit et nous concentrer sur ce qui est nécessaire pour nous pour réussir cet examen.
And you can be distracted by the television or by your thoughts of the weekend.
Et on peut très bien être distrait par la télévision ou les pensées sur ce qu'on va faire le weekend.
When you listen to a favorite piece of music or you look at a beautiful painting, we pay attention.
Quand vous écoutez un morceau de musique, un morceau préféré de musique, ou vous regardez un tableau, là, vous prêtez attention.
And we can also be distracted from that.
Nous pouvons aussi être distraits en ce moment.
But the work of consciousness is a little different between concentration and attention.
Mais le travail est différent. Le travail entre la concentration et l'attention, ce travail est différent.
We need a certain level of intention, a certain effort.
Nous avons besoin d'un certain niveau d'intention, d'un certain niveau d'effort.
Even to decide, for example, I'm now going to listen to a Bach cantata.
Ne serait-ce que pour décider, je vais maintenant écouter une cantate de Bach.
I'm not going to do my emails.
Je ne ferai pas mes emails maintenant.
So you have an intention.
Donc c'est une intention que vous avez.
And you have to stay faithful to that intention.
Et il faut rester fidèle à cette intention.
And you lay aside your other thoughts.
Et vous mettez de côté vos autres pensées, ce moment-là.
The Desert Fathers say, prayer is the laying aside of thoughts.
Les pères du désert ont dit que la prière, c'est le fait de mettre de côté les pensées.
So, in fact, any time that we pay deep attention, we are entering into a state of prayer.
Chaque fois que nous prêtons une attention profonde, nous entrons dans un état de prière.
And there are many different levels of prayer.
Et il y a des niveaux différents, il y a beaucoup de niveaux différents de la prière.
In meditation, we enter into pure prayer.
Dans la méditation, nous entrons dans la pure prière.
With pure attention.
Avec une pure attention.
Selfless attention.
Une attention où l'ego n'est pas concerné.
Free from images or concepts.
Où il n'y a plus d'images ni de concepts.
But that requires work.
Mais ceci exige du travail.
The work of attention that we practice in meditation bears fruit in our lives.
Le fruit de travail, pardon, de l'attention que nous exerçons pendant la méditation porte des fruits dans notre vie.
This capacity for attention in life generally is developed through these times of prayer.
La capacité de prêter attention dans la vie en général se développe à travers ces moments de prière.
So, for example, teachers will say the children are easier to teach after they have meditated.
Donc, des enseignants vont dire c'est plus facile de faire notre enseignement avec les enfants une fois que eux ont médité.
So, we would say grace builds on nature.
Donc on dirait que la grâce construit sur la nature, à partir de la nature.
I make a distinction between the benefits of meditation and the fruits of meditation.
Je fais une distinction entre les bienfaits de la méditation et les fruits de la méditation.
The benefits are psychological and physical, we can measure.
Les bienfaits psychologiques, physiologiques, nous pouvons les mesurer.
The spiritual fruits, we can experience, but we can't measure them.
Les fruits spirituels, nous pouvons les expérimenter, mais nous ne pouvons pas les mesurer.
Selon Saint Paul, love, amour, la joie, la paix, la patience, love, joy, peace, patience, la gentillesse, kindness, la bonté, goodness, fidélité, douceur, is it? And autocontrol. Okay, so we can't. We cannot measure these experiences, but we know they touch the quality of our life.
Nous ne pouvons pas mesurer ces expériences, mais nous savons que tout cela touche à la qualité de notre vie.
Another illustration of this, I think, is the exercise or the practice of a musician.
Un autre exemple, ceci est l'entraînement, enfin la pratique, les exercices que font un musicien.
For example, a musician who has a great gift.
Un musicien qui a un don, un grand don.
But he still practices 4 or 5 hours a day.
Il doit s'exercer quand même 4 ou 5 heures par jour.
And he can give an excellent concert night after night.
Et il peut faire des concerts excellents soirée après soirée après soirée.
He enjoys the exercises, the practice.
Il prend du plaisir à s'exercer.
And he enjoys the performance.
Et il prend du plaisir à la performance.
But occasionally, he or she produces an excellent, a great performance.
Mais occasionnellement, la personne va faire une performance extraordinaire.
It hits the mark.
C'est quelque chose qui touche vraiment au but.
And everybody recognizes it, including the performer.
Et tout le monde s'en rend compte, y compris le musicien.
But it's not in his control.
Mais c'est pas quelque chose qu'il peut maîtriser.
So I think in the same way, we all have a gift for prayer.
Je pense que de la même manière, nous avons tous un don pour la prière.
But we have to practice this gift.
Mais il faut nous exercer.
And the practice is good and enjoyable, even when it may be difficult.
Et nous exercer, c'est quelque chose qui est impérable, même si c'est difficile à certains moments.
If you stop meditating because you are in a difficult period, you are not developing the gift.
Si vous cessez de méditer parce que vous traversez une période difficile, vous ne développez pas votre don.
And then, at times, you realize what gift means.
Et parfois, on se rend compte ce que ça veut dire vraiment, le don.
And you realize what it means to enter into the prayer of the Spirit.
Et on se rend compte de ce que ça veut dire vraiment, d'entrer dans la prière de l'Esprit.
Where God does all the work.
Où c'est Dieu qui fait tout le travail.
So I think we have to recognize these different levels of consciousness and these different degrees of prayer.
Donc nous devons arriver à reconnaître ces différents niveaux de conscience et ces différents niveaux de prière.
Merci, juste pour rebondir sur cette différence entre les bienfaits et les fruits. Je pense que moi, je fais toujours une différence au niveau de la vie spirituelle et même de l'éco-spiritualité entre l'efficacité et la fécondité. Et je crois que nous sommes dans une société qui est obsédée par l'efficacité. D'ailleurs, avec l'efficacité, justement, il faut développer des indicateurs pour mesurer les effets, les performances. D'ailleurs, on s'est en train de coloniser absolument tous les domaines, l'éducation, la santé, etc. Alors que la fécondité, eh bien, c'est simplement planter des graines, cultiver la terre, arroser, et puis un jour, il y a quelque chose qui fleurit, mais c'est quelque part quelque chose qui ne nous appartient pas. Hein. Alors, deux questions immenses, alors que je vais malheureusement devoir répondre d'une manière très, très laconique. Si un système... Ah, on doit arrêter. Si un système fondé sur l'éco-spiritualité est un objectif idéal à atteindre, la transition risque d'être longue. Comment lutter contre les injustices et inégalités dans cette phase transitoire et dans quel courant politique ? Attendez, c'est pas fini, il y a une deuxième question. Les politiques sont aujourd'hui obnubilées par la nécessité de créer des emplois grâce à la croissance. Quelle serait la réponse d'un système éco-spirituel ? Comment donner à chacun une utilité sociale et les moyens de vivre ?
Michel Maxime, est-ce qu'on ne peut pas dire que la question elle est bonne ?
Je pense que ça mériterait quand même de...
La dernière, alors.
On a encore quoi, 5 minutes ? Bon, j'ai essayé de répondre à 5 minutes parce que c'est absolument immense, mais je pense que c'est quand même des questions très importantes parce qu'elles font le lien évidemment avec le politique, l'économique, le social. Alors d'abord, deux trois éléments très rapidement. On parle justement d'inégalité, d'injustice. On a évidemment parlé d'éco-spiritualité, d'écologie, mais pour moi, c'est évident que l'articulation avec la lutte contre les inégalités et les injustices, elle est essentielle. Il n'y a pas d'écologie. L'écologie, c'est pas ce qui se limite à la création et à la nature. Pour prendre sa plénitude de sens, elle doit évidemment s'articuler avec la lutte contre les inégalités et contre l'injustice. Hein. Parce qu'on peut être un super bio et tout, puis continuer à exploiter son prochain, ça n'a pas véritablement beaucoup de sens. La deuxième chose, on parle de système éco-spirituel. Quelle horreur! Je veux dire, l'éco-spiritualité, pour moi, n'est pas un système et ne le sera jamais, ne doit pas l'être, parce que ce serait, en fait, pour moi, la fin même. C'est complètement contradictoire avec mon approche. Donc, surtout pas d'esprit de système. Maintenant, c'est vrai que, si vous voulez, les questions qui sont posées, elle est énorme parce qu'en fait, elle fait référence à effectivement un système, ce système CPC, qui est très très vaste et qui est très très complexe. Et si on veut changer ce système, il y a toute une série de niveaux, de dimensions sur lesquelles il faut agir, j'aurais envie de dire simultanément et d'une manière cohérente. Il y a ce niveau des standards internationaux, il y a ce niveau des lois nationales dont j'ai parlé, il y a ce niveau des technologies, ce niveau des entreprises, ce niveau des éco-gestes au quotidien, etc., etc. Tout ça, c'est l'écologie extérieure. Et l'éco-spiritualité, elle porte sur deux autres niveaux, qui sont ce niveau des paradigmes et des représentations qui nous habitent, et ce niveau de l'état intérieur par lequel nous participons au système. Et l'éco-spiritualité, elle se concentre sur ces deux points, comme étant, à mon sens, d'une certaine manière, ce qui détermine les structures mentales qui sont les fondements mêmes du reste du système. Et donc, il faut agir là-dessus pour pouvoir arriver à un changement en profondeur du reste. Sinon, on va faire simplement du verdissement. Donc c'est aussi la limite de l'éco-spiritualité. C'est qu'elle se joue sur un niveau, en fait, qui est le niveau des sous-bassements. Et l'autre limite, c'est qu'évidemment, c'est très très difficile, ce que je vous ai dit, ça peut s'appliquer au niveau individuel, au niveau d'un groupe, en fonction de choix personnels, de choix libres, mais évidemment, on peut pas en faire un programme politique, parce qu'on entre dans des totalitarismes et des dictatures spirituelles qui sont peut-être pires encore que les dictatures politiques. Donc, il faut agir à tous ces niveaux, et c'est là où tous nos rôles de citoyens, nos rôles d'épargnants, nos rôles de consommateurs, nos rôles de travailleurs, etc., ont un rôle à jouer. Alors, la notion de transition, elle est très importante, et par rapport à ça, il y a en ce moment des penseurs très intéressants qui travaillent. Je pense notamment à Tim Jackson, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vers une prospérité sans croissance », et qui définissent toute une série de mesures, à toute une série de niveaux, justement, pour opérer cette transition vers un autre type de société, justement, prospérité sans croissance matérielle, pour un autre type de société. Ce sont des propositions souvent qui, si la volonté politique était là, seraient tout à fait applicables. Et une des idées, parce qu'on parle justement de donner à chacun les moyens de vivre et d'une utilité, c'est tout ce thème, au fond, d'une espèce de forme de revenu minimum, alors dont il faut trouver la formule, parce qu'évidemment, c'est compliqué. Et certains parlent même d'une forme de revenu minimum qui pourrait être donnée à des personnes qui auraient envie de faire la transition entre un emploi dans le système économique tel qu'il est actuellement, qui détruit la planète et qui les détruit eux-mêmes, vers justement l'engagement vers d'autres services dont la société a besoin et qui devraient pouvoir être développés sous des formes aussi de relocalisation de l'économie, etc. Donc les propositions ne manquent pas, mais par exemple dans ce livre-là, vous avez une approche assez systémique de tout ce qu'on pourrait faire pour, en fait, amorcer cette transition. Mais je crois que nous, ce qu'on a à faire au niveau spirituel, c'est justement de travailler à ce changement de conscience qui fera, en fait, que cette transition pourra être vécue, et surtout que cette autolimitation qui est inéluctable puisse être vécue non pas comme une privation conduisant à des conflits, mais comme quelque chose qui est en réalité quelque chose de positif et de porteur parce que ça va vers la vie.
Vous pourrez répéter.